VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition de ce lundi 14 septembre 2015, à la une ce soir.
En République démocratique du Congo, l'opposant historique Étienne Tshisekedi met fin aux discussions avec le gouvernement Kabila.
Lutte contre le terrorisme, campagne anticorruption au Nigeria, renforcement de la coopération franco-nigériane. Mouhamadou Bouhari devait en discuter ce soir à l'Élysée avec son homologue français François Hollande.
Dossier justice, la presse et le procès Hissène Habré.
La presse locale se laisse instrumentaliser par des individus mal intentionnés.
On écoutera Marcel Mendy, porte-parole du tribunal spécial à Dakar.
Réunion extraordinaire à Bruxelles des ministres de l'Intérieur européens pour régler la situation des migrants.
Mise en garde de la Jordanie à Israël, pas de nouvelles provocations après deux jours d'affrontements entre Palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem.
Nous aurons également nos segments sur l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
En République démocratique du Congo, Étienne Tshisekedi met fin aux discussions avec Kabila, le leader de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, principal parti de l'opposition en RDC, a rappelé ses délégués des négociations avec les représentants du président Joseph Kabila. Négociations qui préparaient un dialogue politique avant l'élection présidentielle de 2016. Eddy Sango.
À travers un communiqué signé de Bruxelles où il est aux soins depuis août 2014, Étienne Tshisekedi affirme avoir constaté l'impasse dans les négociations dont l'objectif était de trouver un accord pour l'élection présidentielle de novembre 2016. L'Union pour la démocratie et le progrès social a pris acte de l'échec des entretiens de Venise et d'Ibiza et a mis aux prises ses représentants et ceux du camp Kabila et a demandé à ses délégués de se retirer dès cet instant de la table des négociations, indique Tshisekedi. Selon le communiqué, les pourparlers entre les deux camps devaient ouvrir la voie à un dialogue national avant les scrutins. L'UDPS et ses alliés étaient quasiment la seule tendance politique de l'opposition à accepter l'initiative du dialogue national annoncée par le président Kabila. Les autres formations de l'opposition accusent les chefs de l'État congolais de manœuvrer pour briguer un troisième mandat alors que la Constitution les lui interdit, limitant à deux le nombre de mandats présidentiels. Les opposants rejettent les calendriers électoraux qui prévoient une douzaine de scrutins locaux, régionaux et nationaux avant la présidentielle. Le Conseil constitutionnel a ordonné récemment une révision de ces calendriers.
Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, entame une visite officielle de trois jours en France sur invitation de son homologue français François Hollande. Le point avec Dili Diko.
Mahamadou Bouhari sera reçu ce soir à l'Élysée par le président François Hollande. La lutte contre le terrorisme sera au centre de leur entretien. Paris avait organisé en mai 2014 un sommet pour coordonner les efforts contre Boko Haram. Monsieur Bouhari, investi en mai dernier, avait fait de la lutte contre les djihadistes l'une de ses priorités. Le président nigérian veut aussi renforcer les relations commerciales avec la France. Les cours du pétrole sont au plus bas, le Naira, la monnaie nigériane, est en chute libre et le chômage frappe durement les jeunes dans son pays. Il va prôner les mérites du marché nigérian, le plus grand d'Afrique, avec plus de 170 millions de consommateurs. Enfin, déterminé à combattre la corruption, Mahamadou Bouhari va plaider le recouvrement de milliards d'euros détournés de son pays et rechercher l'expertise pour doter le Nigeria d'organismes de contrôle fiables. Le chef de l'État nigérian espère que son homologue français pourra défendre cette cause au sein de l'Union européenne.
Au sujet du Nigeria toujours, le bilan de l'effondrement d'une école primaire coranique s'est alourdi. L'Agence nationale de gestion des urgences compte désormais 6 morts. Souvenez-vous, l'incident s'est produit dimanche soir à proximité de Jos.
Nouveau cas d'Ebola en Sierra Leone. Il s'agit d'une adolescente de 16 ans décédée dimanche dans le nord du pays. D'après les autorités sanitaires, ce cas est sans relation avec le foyer de contamination situé dans une province voisine.
Et guerre civile au Soudan du Sud, les autorités accusent la rébellion d'avoir mené de nouvelles attaques en dépit du cessez-le-feu. D'après le porte-parole de l'armée, Philippe Aguer, les insurgés ont attaqué des positions proches de Malakal, capitale de l'État pétrolier du Haut-Nil. Les troupes gouvernementales auraient réussi cependant à repousser les rebelles et d'après l'armée, la situation est désormais calme. Le porte-parole a toutefois ajouté qu'un grand nombre de miliciens nouers de l'armée blanche appartenant à l'ethnie du chef de la rébellion, l'ex-vice-président Riek Machar, se rassemblaient au sud de Malakal en vue d'une attaque. L'armée et les rebelles s'accusent mutuellement de ne pas respecter la trêve conclue le 29 août pour mettre fin au conflit qui ravage le jeune pays depuis décembre 2013. Et en dépit des combats, les deux parties assurent que l'accord reste en vigueur.
Les forces de sécurité en Égypte ont tué 12 personnes, parmi lesquelles des touristes mexicains dans le désert occidental, assurant avoir pris pour cible leur véhicule par erreur en pourchassant des djihadistes. Mexico a exigé une enquête rapide et exhaustive sur ce drame qui a provoqué la mort d'au moins 2 Mexicains.
Lancement ce lundi d'une campagne internationale contre les faux médicaments qui touchent le continent africain. Le médicament de la rue tue. Et le slogan de cette initiative de la Fondation Girac.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des migrants en pleurs devant les barbelés subitement tendus devant eux. Budapest a fermé ce lundi le principal point de sa frontière avec la Serbie et l'Allemagne. Jusqu'ici très accueillante, a annoncé un durcissement de sa politique migratoire. Entre-temps, les 28 ministres de l'Intérieur européens sont à Bruxelles pour plancher sur la crise, notamment le système de répartition des demandeurs d'asile. On fait le point avec Nathalie Barche.
La police hongroise a fermé lundi après-midi le principal point de passage emprunté par les migrants pour traverser la frontière serbo-hongroise à Rusk. Une quinzaine de policiers se sont mis en travers de la voie ferrée qui est longée quotidiennement par des milliers de migrants voulant entrer en Hongrie. Pendant qu'ils leur bloquaient le passage, d'autres policiers tendaient des fils de fer sur la voie. La Slovénie a accepté de recevoir plusieurs milliers de migrants si le flux de réfugiés se poursuit après la fermeture par Budapest de la frontière serbo-hongroise, a déclaré ce lundi le ministère de l'Intérieur, tout en invitant les communes et les citoyens à accueillir des personnes si nécessaire. La Hongrie, par où ont transité près de 200 000 personnes cette année, veut mettre en œuvre mardi une législation pour rendre sa frontière avec la Serbie infranchissable. De nouveaux postes de contrôle frontaliers de l'Allemagne ont provoqué des embouteillages de 20 km en Autriche. L'Allemagne, qui a accueilli des milliers de réfugiés sur son territoire, a déclaré avoir renforcé ses contrôles dimanche pour instituer un processus plus ordonné.
En Afghanistan, les talibans ont libéré des centaines de prisonniers à l'issue d'une attaque organisée et déclenchée par un attentat suicide à la voiture piégée. Jean-Roger Billon.
L'attentat a permis aux rebelles afghans de pénétrer dans la prison, a expliqué Mohamed Ali Ahmadi, député provincial et gouverneur de la province orientale de Ghazni. Pendant l'attaque, 355 prisonniers se sont échappés sur 436 détenus, d'après les autorités afghanes. Le gouvernement a déclaré que 148 des prisonniers en fuite sont une menace pour la sécurité nationale. Un ministre afghan à Kaboul a précisé que 7 gardes de sécurité ont été tués et 7 autres blessés. Dans un communiqué, le porte-parole des talibans, Zabihullah Mouajid, a revendiqué l'attaque, expliquant que la prison était contrôlée par l'agence de renseignement afghane et que les détenus, dont des talibans, étaient maltraités. Ce n'est pas la première fois que les talibans réussissent une évasion de prisonniers en Afghanistan. En avril 2011, le groupe terroriste a organisé une audacieuse attaque à Sarposa, la plus grande prison du pays dans la province méridionale de Kandahar, afin de libérer 500 détenus. Et en juin 2008, une autre attaque a eu lieu dans cette même prison. Un groupe de talibans armés de fusils d'assaut et de grenades avait réussi à faire s'évader 1200 détenus.
À Jérusalem, l'esplanade des mosquées a été à nouveau le théâtre d'affrontements entre la police et des manifestants palestiniens. Les violences ont éclaté hier. Selon la police, les forces de l'ordre ont essuyé des jets de pierre de la part de jeunes musulmans masqués. 9 personnes ont été arrêtées. Les Palestiniens voulaient empêcher les Juifs de prier sur l'esplanade, révérée tant par les Juifs que par les musulmans, souligne l'AFP. Le roi Abdallah II de Jordanie a mis en garde Israël contre toute nouvelle provocation.
à la suite de combats où une trentaine de militants du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, et un civil ont été tués. Le gouvernement turc a levé le couvre-feu imposé hier dans la ville frontalière de Cizre. C'est du moins ce que rapporte l'AFP, citant des sources gouvernementales. Cette ville de 120 000 habitants, située près des frontières syriennes et irakiennes, est devenue l'un des points chauds des combats meurtriers que se livrent depuis la fin juillet les forces de sécurité turques et le PKK.
Ici aux États-Unis, Kim Davis, cette greffière du Kentucky devenue célèbre pour avoir refusé d'accorder des certificats de mariage aux couples homosexuels, est de retour à son poste. Son refus lui a valu 5 jours en prison. Davis a déclaré qu'elle n'empêchera pas ses assistants de signer les 10 certificats, mais elle remet en question leur validité sans sa propre signature. Kim Davis est une chrétienne évangélique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
Les employés de Katanga Mining en RDC respirent. Après l'annonce catastrophe la semaine dernière de la suspension de ses activités, la maison mère Glencore a affirmé aujourd'hui qu'elle maintenait ses investissements et 80% de ses effectifs. Les centres de santé, l'approvisionnement en eau des familles des employés sont également maintenus. Au Cameroun, pour faire face au déficit énergétique qui provoque plusieurs coupures de courant par jour, le marché des lampes solaires est en plein essor, se vendant entre 6 500 et 10 000 francs CFA. La société Énergie Solar Industrie a ouvert un atelier d'assemblage en août en important des matériaux de Chine et de Corée. Elle produit 200 lampes par jour. Son directeur, Lucky Gouette.
Ce qui nous intéresse, c'est de trouver une solution au petit Camerounais, au Camerounais moyen. Donc celui-là, en fait, qui doit aussi être éclairé. On se focalise aujourd'hui d'abord sur cette petite lampe solaire que nous avons baptisée lampe solaire Aïda, qui est à la portée de tout le monde.
Hier matin, à Madagascar, au moins 18 personnes, dont un gendarme, ont été tuées lors d'affrontements entre les forces de l'ordre et des voleurs de zébus qui tentaient de s'emparer de 2800 têtes de bétail dans le sud-est de l'île. Selon l'AFP, la gendarmerie et l'armée, appuyées par un hélicoptère, sont intervenues pour tenter de repousser les assaillants. Le vol de zébus, à l'origine un moyen pour les jeunes gens de prouver leur virilité, a pris la dimension d'un trafic depuis 2012 dans le sud de la grande île.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Claire.
Place à l'actualité sportive avec ce soir Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Parlons des Jeux africains qui se poursuivent à Brazzaville.
Et ce lundi, le Congolais Lomba Bilisi a remporté la médaille d'or en 110 mètres haies décathlon. Coup d'œil donc sur la team RDC avec Valdo Simoyamba de TV50 à Kinshasa. Nous l'avons joint à Brazzaville.
Le début était difficile pour le team RDC aux Jeux africains, mais les choses commencent à s'améliorer avec notamment les 3 médailles gagnées déjà en boxe, 2 médailles d'argent et 1 médaille en bronze. Aujourd'hui, les nouvelles sont plutôt bonnes avec notamment la participation des judokas congolais après la polémique qui a vécu à Kinshasa, le bicéphalisme qui règne entre deux fédérations, mais la fédération qui est en position des athlètes qui ont traversé les tournois des dos en bien plus part aux Jeux africains. Il y a d'ailleurs Monica Bouanga qui s'est qualifiée pour la finale. Donc, l'RDC a donc son destin entre ses mains. Toute la nation est en train d'attendre l'entrée en compétition d'une des disciplines en pleine émergence de la République démocratique du Congo, les taekwondo, qui a fait une sensation lors des Jeux de la zone 4 en République démocratique du Congo à Kinshasa. Donc, cette discipline est donc attendue de pied ferme à ces Jeux. C'est pratiquement les nations de l'Afrique centrale qui l'attendent. Elle a une très bonne réputation. Donc, c'est pratiquement une des disciplines qui va permettre à la République démocratique du Congo d'augmenter ses nombres de médailles.
Voilà, c'était Valdo Simoyamba de TV50 à Kinshasa, joint à Brazzaville. Cannes des moins de 23 ans, tirage au sort connu?
Oui, l'événement aura lieu du 28 novembre au 12 décembre au Sénégal et dans le groupe A. On aura Sénégal, Afrique du Sud, Zambie, Tunisie. Dans le groupe B, très relevé, on aura l'Égypte, Algérie, le Mali et le Nigeria. Les 3 premiers de ce tournoi, les finalistes et le vainqueur du match pour la 3e place obtiendront leur billet pour les JO de Rio en 2016. Parmi les 8 équipes, seule l'Égypte a participé au précédent JO en 2012 à Londres où elle avait été éliminée en quart par le Japon.
Et du nouveau développement dans le scandale de corruption à la FIFA.
Oui, on apprend ce lundi que la justice américaine qui enquête sur la corruption à la FIFA prévoit d'engager des poursuites contre d'autres personnes et organisations. C'est ce qu'a indiqué lundi à Zurich la ministre américaine de la Justice, Loretta Lynch.
Merci, Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Merci d'être fidèle à VO Afrique, Morgane Guiriec et Chérubin Dorcy dans votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Morgane, le Sénégal, où se déroule le fameux procès Hissène Habré.
Le procès de l'ancien président tchadien est entré dans sa deuxième semaine devant les chambres africaines extraordinaires à Dakar. Plus de 300 journalistes sont accrédités et certains confrères ont rapporté hier que l'équipe tchadienne de télévision a été rappelée à N'Djamena. Marcel Mendy, porte-parole du tribunal spécial, s'inscrit en faux. Il a été joint à Dakar par Idriss Fall.
Je suis navré de constater que la presse locale se laisse instrumentaliser par des individus mal intentionnés qui, a priori, veulent saboter le procès à leur façon en divulguant de fausses informations, parce que la presse tchadienne est bel et bien représentée à Dakar. Et jusqu'au moment où je vous parle, elle couvre toutes les activités liées à ce procès. Donc dire que la presse tchadienne a été rappelée à N'Djamena, c'est absolument une fausse information.
Au total, combien de journalistes sont accrédités à ce procès?
Ça avoisine les 300 journalistes accrédités. Alors quand je dis journalistes, j'y intègre la presse en ligne, les télévisions, les radios, la presse écrite, etc., etc.
Et pourquoi autant de journalistes?
C'est une affaire qui intéresse beaucoup de monde. C'est la première fois en Afrique qu'un ancien chef d'État est jugé par des Africains. Vous imaginez donc l'enjeu du procès, l'aspect pédagogique. Non seulement il faut lutter contre l'impunité, mais également il faut donner un signal fort aux présidents qui sont actuellement en exercice pour leur dire « faites attention ». Si vous commettez les mêmes erreurs contre vos populations, voilà ce qui risque de vous arriver à la fin de vos mandats.
Hissène Habré amené de force devant les caméras, est-ce que ce n'est pas violer son droit en tant qu'accusé?
Non, pas du tout. C'est la loi qui s'applique dans toute sa rigueur. Parce que M. Hissène Habré, quel que soit son statut d'ancien chef d'État, reste un justiciable, c'est-à-dire est assujetti au respect des lois et règlements. Maintenant, quand le président Kam lui demande de venir se présenter à la barre et qu'il refuse, en voyant pratiquement paître l'huissier qui avait été commis à cette tâche, vous comprenez aisément qu'il est là en train de défier la loi. Et le président de la Chambre a parfaitement le droit de recourir aux mesures que les textes lui permettent de prendre en pareille circonstance. Donc jusqu'ici, rien n'est illégal dans la comparution forcée de M. Hissène Habré dans la salle d'audience.
Marcel Mendy, porte-parole des chambres africaines extraordinaires à Dakar.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Les foyers nigériens sont en manque de gaz butane depuis quelques semaines. En effet, la société de raffinage est en cessation de fonctionnement pour on ne sait quelle raison. Les derniers stocks sont épuisés et les populations s'en plaignent. Le reportage de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Niamey, la capitale, ainsi que plusieurs villes du Niger manquent de gaz depuis quelques semaines. Chaque matin, les boutiques de revente sont envahies par les chefs de famille et autres travailleurs qui utilisent cette énergie pour pouvoir se procurer le maximum dans les stocks restants.
Quand nous, on est habitué, ça fait longtemps. Je peux dire qu'à 80% chez moi, c'est le gaz qu'on utilise. Et je crois que ça serait très difficile. Je ne sais pas comment on va gérer ça.
On dit qu'il n'y a pas de gaz, il n'y a rien, il n'y a rien. Bon, Jusqu'à présent, on attendait. Ça fait une semaine de cela.
Ces distributeurs, dans un des quartiers de Niamey, a tout de même une explication à cette pénurie.
Cela est causé principalement par une panne technique au niveau de la Soraz. Nous savons tous que les gaziers au Niger, les distributeurs de gaz, dépendent exclusivement de notre fournisseur, la Sonidep. Et la Sonidep obtient ses produits exclusivement de la Soraz. Donc la Soraz étant en arrêt technique pour le moment, nous nous retrouvons face à ce phénomène de pénurie de gaz.
La Soraz, c'est la société de raffinage des produits pétroliers du Niger créée en 2011 à plus de 1000 km de Niamey, la capitale. La majeure partie de son capital est détenue par les Chinois. Les pannes techniques qui bloquent son fonctionnement sont récurrentes depuis qu'elle a été créée. L'origine de la panne qui occasionne la pénurie actuelle ne serait même pas connue. Du coup, les distributeurs envisagent d'autres solutions.
En relation avec les autorités, les distributeurs de gaz et la Sonidep essaient de trouver des solutions. Apparemment, la solution se dirige vers de l'import du gaz, tout à fait, pour au moins pallier à ce manque temporaire, donc pour que la population ne ressente pas vraiment l'effet plein de cette pénurie. Nous essayons de trouver une solution au courant de cette semaine-ci. Au moment où on en parle, les tractations sont déjà bien avancées pour obtenir du produit à partir de l'extérieur. À notre niveau, nous essayons quand même de donner des priorités à l'accès au gaz. Bien sûr, nous voudrions le fournir à tout le monde, mais en nous-mêmes, nous donnons quand même priorité aux hôpitaux, aux districts sanitaires, à toutes les gens d'institutions qui ont vraiment besoin de gaz pour l'aspect vital.
Depuis 2011 que cette société de raffinage des produits pétroliers est créée, l'utilisation du gaz butane est rentrée dans les mœurs des familles nigériennes qui vivent ainsi difficilement cette situation. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Cap sur le Mali. Une étude réalisée par l'ONG Ecpat Luxembourg révèle que sur 150 jeunes filles, 28%, 150 000 jeunes filles, 28% sont victimes d'exploitation sexuelle dans le pays. Pour lutter contre ce fléau, l'organisation a lancé le projet Rompre le silence autour des filles mineures exposées aux victimes d'exploitation sexuelle à des fins commerciales au Mali. Sur place, Kassim Traoré nous en dit plus.
Plus de 28% d'un échantillon de 1472 enfants ont été victimes de tourisme sexuel, de traitement à des fins sexuelles. L'étude bouclée en mars 2014 a été menée dans quatre grandes villes du pays et le district de Bamako. Une victime s'explique.
Ça fait quelques années que nous sommes dans cette pratique. C'est de l'argent facile. Ce sont des hommes qui donnaient de l'argent chaque fois, mais on restait avec eux à l'hôtel pendant leur séjour. Certains nous parlaient de sexe, d'autres pas. J'étais avec des amis, c'est après que nous avons compris leur jeu. Des vendeurs de sexe qui ont été sans pitié avec nous.
627 millions de francs CFA sont consacrés à la mise en œuvre du projet Rompre le silence autour des filles mineures exposées ou victimes de l'exploitation sexuelle au Mali. Fabienne Grosjean est la coordinatrice de EIPAC Luxembourg.
Enfants, prostituées, sexualité, pédopornographie, c'est quand même des sujets aussi de criminalité. Et donc, nous, notre résultat, c'est le plus possible d'agir en amont, c'est-à-dire dans la prévention, de sensibiliser évidemment tout un chacun, les citoyens lambda comme les autorités.
Environ 98% des victimes du tourisme sexuel sont des filles et les garçons 1,4%. La plupart de ces enfants sont déscolarisés ou analphabètes. Ils subissent tous leurs premières agressions sexuelles dès l'âge de 11 ans. Abdoulaye Cissé, du Parlement national des enfants du Mali.
Que tous conjuguent leurs efforts afin de prendre des mesures urgentes pour mettre fin à cette pratique, à prendre des mesures judiciaires, à ce que les acteurs de ces crimes vraiment soient sanctionnés conformément aux règles judiciaires qui existent dans notre pays.
En plus des partenaires classiques de l'ONG EPAC Luxembourg, l'État malien ne veut pas rester en marge du combat pour la protection des enfants. Bakary Traoré, directeur national de la promotion de l'enfance et de la famille.
Le phénomène est tellement
grandissant aujourd'hui que les seules actions des Ekpat Luxembourg ne peuvent pas suffire. Parce que l'État étant le premier responsable de tout ça, l'État fait beaucoup aussi. Mais la réalité aussi est que l'État ne peut pas lui seul juguler ce problème-là.
Depuis 2007, l'ONG Ekpat Luxembourg mène le combat contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales au Mali. Et c'est la troisième fois qu'il exécute un projet du même genre, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'OIM travaille partout dans le monde pour...
L'OIM est en alerte sur la situation des migrants en Europe, notamment en matière de prévention contre le trafic des êtres humains, les femmes et les enfants étant particulièrement vulnérables dans cette crise. Au micro de Nathalie Barche, le porte-parole de l'OIM, Léonard Doyle, joint à Genève.
L'OIM travaille partout dans le monde pour aider les victimes de la traite, pour aider les vulnérables surtout, pour leur donner un peu de soins et leur protéger de ceux qui sont prêts à les exploiter. Et le problème en Europe, c'est qu'il y a les politiciens qui veulent que le grand parti soit appelé des migrants économiques. Alors, parmi cette population, on a souvent des gens très vulnérables, surtout les victimes de la traite.
Mais est-ce qu'il y a déjà des cas de traite de personnes, de trafic de personnes par rapport à cette crise?
Oui, certainement. Ce qu'on constate, c'est toujours que quand il y a une crise, soit une crise naturelle, un tremblement de terre en Haïti, par exemple, un événement comme le typhoon en Philippines il y a 2 ans, soit la guerre en Syrie, soit les problèmes en Nigeria avec Boko Haram, on a toujours les problèmes de la traite. Quand les gens sont déplacés, ils sont très vulnérables. Et c'est à ce moment-là qu'on voit les activités de ces gens.
La collaboration avec le HCR, comment se passe-t-elle?
Ça, c'est une collaboration de frères, si vous voulez. Alors, souvent, on travaille avec eux pour faire le transport, pour vérifier la santé de ces gens. Et c'est l'HCR qui font le casework, le travail des individuels.
Pour terminer, essayez de nous en dire un petit peu plus sur le rôle de l'OIM, sur la crise des réfugiés qui arrivent en Europe, dans ces pays-là. Comment vous gérez le problème?
On est là pour les accueillir en Lampedusa, par exemple, ou bien en Sicile et aussi en Grèce. En même temps, on travaille sur le côté de l'espace public pour être sûr que les politiciens respectent les droits des migrants. Et je pense qu'on a un certain succès à persuader les politiciens d'être courageux et de défendre les droits des migrants. Ce n'est pas seulement nous, c'est toute la communauté humanitaire, mais on voit... Maintenant que les politiciens ont un peu plus de courage. Et je pense que aussi c'est à cause de la pression publique que l'opinion publique est très forte sur ce point.
C'était Léonard Doyle au micro de Nathalie Barche. Il est le porte-parole de l'OIM.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. Oh, I can feel my face when I'm when I'm with you.
Et c'est la fin de cette édition. Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde. Au micro, Morgane Diriec et chérubin Gaby Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.